Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour François Lachaud.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École française d'Extrême-Orient et à l'École pratique des hautes études, spécialiste de l'histoire religieuse et culturelle du Japon. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, j'en citerai quelques-uns. Empire éloigné, l'Europe et le Japon, 16e-19e siècle, paru en 2010. Images et imagination, le bouddhisme en Asie, paru en 2009. Et dernièrement, un livre, Le vieil homme qui vendait du thé, paru au CERF. Vous venez aujourd'hui, non pas nous parler de ces livres-là, mais aborder un des deux petits livres qui sont publiés en 2011 de Lévi-Strauss, qui s'intitule « L'autre face de la Lune », l'autre s'intitulant « L'anthropologie face aux problèmes du monde moderne ». Ces deux livres sont composés de textes inédits qui ont en commun de parler du Japon et ont été écrits entre 1979 et 2001, un laps de temps assez long. On ne découvre rien qui révolutionne ou même développe la pensée de Lévi-Strauss, mais on y trouve des clés pour comprendre la culture japonaise. C'est assez intime. On découvre un Lévi-Strauss moins magistral, même humoristique. Parce que Lévi-Strauss nourrissait une véritable passion pour le Japon. On peut préciser que dès son enfance, son père, peintre influencé par les impressionnistes, lui donnait des estampes japonaises en récompense de ses succès scolaires. Alors, pour démarrer, est-ce que Lévi-Strauss est parti trop tard au Japon, selon vous ?
Non, je ne pense pas, pour une bonne et simple raison, c'est que je crois qu'il y a un moment où lui-même s'est rendu compte de l'impasse dans laquelle pouvait placer une certaine forme d'ethnologie qui se justifiait par le seul terrain. Et je crois qu'il y a eu une démarche réflexive sur la diversité des cultures, sur la construction de celle-ci, sur ce qu'on a pu appeler, ce que lui-même a appelé avec une grande pertinence la structure. Et au fond, dans ses années de maturité profonde, les voyages qu'il a pu faire au Japon sont en quelque sorte, j'allais dire, non pas la vérification des théories qu'il avait, mais la manière de les voir, en fait, d'une autre manière. D'où ce titre, d'ailleurs, il le dit lui-même, qu'il avait emprunté, en fait, au théâtre no, hein, ce que les Japonais appellent l'iken no ken, où l'acteur doit se voir comme le spectateur, donc comme un regard éloigné. C'est comme si le Japon lui avait donné non pas l'occasion de valider ses thèses, mais de les approfondir et de présenter un public japonais, pays dans lequel il jouit aujourd'hui encore d'une réputation en fait très grande, son travail et son intérêt aussi pour une culture, intérêt profond, puisqu'il a un éventail de lectures absolument extraordinaire, de seconde main, il le dit lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui prétend avoir appris le japonais, et pourtant il connaît bien des choses que, j'allais dire, de nombreux japonologues ne connaissent pas. À ce titre-là, c'est tout à fait intéressant. Je crois qu'il y a cette rencontre. Je crois que ce serait vraiment, en fait, faire en fait un mauvais procès à Lévi-Strauss que de dire que son œuvre a découvert le Japon trop tard. J'en veux pour simple preuve que dans des notes pour l'édition de ses œuvres en Pléiade, donc, qui est parue en 2008, il a revu et ajouté des choses sur la mythologie japonaise par rapport à la mythologie américaine dans cette série que Vincent Debène a appelée « Les petites mythologiques ». À la suite de Lévi-Strauss lui-même, il a rajouté effectivement quelques notes sur la mythologie japonaise, ce qui prouve que justement ce regard était pas seulement éloigné dans l'espace, mais aussi dans le temps. Il a grandi avec ses estampes, il a grandi avec cette fascination que je partage tout à fait en fait pour une certaine forme d'image japonaise, et qui s'est prolongée au fil des années comme une réflexion approfondie sur la culture japonaise, et aussi à travers elle, sur peut-être un phénomène qu'il a entrevu dans Triste Tropique et qui n'a cessé de l'intéresser jusqu'au bout, le bouddhisme finalement comme forme de civilisation, et à travers lui aussi la rencontre qui a pu avoir lieu entre les Occidentaux et cette civilisation à l'extrémité de l'arc asiatique. Donc ça, je crois que c'est tout à fait intéressant.
On le sent fasciné par le pays. Qu'est-ce qui le fascine le plus dans ce pays ?
C'est très difficile, j'allais dire, je pense que Lévi-Strauss a une fascination très singulière, justement. C'est un mot que j'aime beaucoup, puisque finalement, c'est ce que Tocqueville essayait de décrire en Amérique, c'est-à-dire ce qui est singulier, ce qui lui était apparu singulier. Et on a l'impression que l'itinéraire de Lévi-Strauss au Japon répond, pas directement, mais à la première découverte de l'Amérique par Tocqueville, avant même la naissance de la démocratie, l'Amérique qu'il décrit dans 15 jours au désert. Donc je pense qu'il y a une contiguïté qu'il décèle lui-même entre l'histoire et le mythe au Japon, sur laquelle on a beaucoup réfléchi. Mon collègue Alain Rocher, par exemple, qui a écrit sur la mythologie japonaise et qui a été très influencé par les travaux de Lévi-Strauss, le montre. Je pense que la nature l'intéresse, mais il n'y a pas de nature sans les hommes. Même si, effectivement, Lévi-Strauss sait qu'un jour, il y aura, si ce n'est une nature, du moins, un monde où, finalement, duquel l'homme aura disparu. Donc, je crois qu'il y a cette fascination-là. Et il y a une fascination pour l'artisanat, il y a une fascination pour les menues choses du quotidien. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas la fascination antiquaire uniquement, c'est-à-dire d'un Japon. Il y a un moment, il dit de manière très drôle, en Corée, en fond, on lui reproche de ne s'intéresser qu'à des choses qui n'existent plus. Et quand il décrit le Tokyo moderne, ce Tokyo qui a changé, qui sont ces villages un peu assemblés, qui auraient de l'architecture, on pourrait dire moderne ou post-moderne, d'autres formes plus traditionnelles d'habitants, on sent que tout le rend curieux. La manière dont les gens coupent, par exemple, le poisson, tranchent la viande, se servent d'outils, ce n'est pas le fil qui va à l'aiguille ou l'aiguille qui va au fil. Donc, cette attention aux menus détails du quotidien me semble tout à fait typique de, à la fois de sa manière de penser, et en ce sens-là, le Japon n'est pas une exception, mais aussi de ce qui a pu le fasciner au Japon, comme si c'était un réservoir de choses que lui a vu disparaître ou sentait disparaître et qui finalement ont continué là aussi à s'estomper au fil du temps.
Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le rapport qu'il étudie entre l'homme et la nature. Il dit que là-bas, on scie vers soi-même. C'est-à-dire la nature, c'est l'élément au-dessus de l'homme. Alors qu'en Occident, on a tendance à scier vers l'extérieur. On est finalement, le jeu gouverne beaucoup en Occident. Et il aime bien faire le parallèle, il analyse le parallèle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Tout d'abord, en fait, effectivement, on pourrait dire le Japon qui actuellement connaît non seulement des désastres naturels de grande ampleur, mais il y a une relation avec la nature qui a été toujours fondée sur une certaine forme d'immanence, de présence au monde, ce qui n'empêche pas, enfin d'ailleurs là aussi Lévi-Strauss est très lucide, une destruction de la nature, un certain moment où l'habitat justement vient contredire cette interaction entre l'homme et la nature, mais en même temps comme si celle-ci était peut-être pas plus présente, mais vécue peut-être avec plus d'intensité, y compris dans la modestie d'un espace qui peut être celui d'une demeure, d'un jardin minuscule. Et ça, je crois que c'est effectivement une singularité. Il me vient à l'esprit un article, il y a quelques années, dans le supplément littéraire du Times, qui disait que les Japonais, loin devant les Anglais, c'est-à-dire loin devant tout le monde, étaient le pays où un Japonais pouvait identifier le plus grand nombre d'essences de fleurs, d'arbres, où c'était le pays aussi où on publiait le plus d'ouvrages sur le jardinage avec l'Angleterre. Donc ça dit aussi un rapport qui n'empêche pas effectivement la destruction, la prolifération urbaine, mais aussi un échange avec la nature pensée de manière différente. Ce n'est pas un hasard si, par exemple, des philosophes comme Watsuji Tetsuro, sur qui a travaillé Augustin Berg, qui vient d'ailleurs de publier ce livre, en fait, sur cette notion de milieu, qui n'est pas le milieu naturel, on a pu appeler ça médiance, hein, c'est un concept un peu difficile à saisir, mais qui désigne justement cette interaction entre l'homme et la nature, qui est poser, penser de manière différente.
Dans l'autre face de la Lune, il y a une préface de Yunzo Kawada. Vous pourriez nous expliquer qui est ce monsieur ? Quel rapport a-t-il entretenu avec Lévi-Strauss ?
C'est intéressant parce que Kawada Yunzo, comme Watanabe Kozo, hein, d'ailleurs, qui sont les deux grands passeurs, j'allais dire, de Lévi-Strauss. Watanabe, bon, lui est professeur à l'Itsumeikan, mais en fait, pour Kawada, c'est un africaniste. Et ça confirme aussi une tendance de la pensée de Lévi-Strauss et que l'on a en fait un peu oublié, puisque la France se pique d'avoir des maîtres à penser. Donc on a pensé justement, pour reprendre le mot, que Lévi-Strauss inspirait, avait des disciples, avait des élèves, formait. Souvent quand on dit formait, il y a l'idée de formater, hein, ou presque de dressage, comme aurait dit André Breton. Or, Lévi-Strauss, il y a un moment, la notion même de maître à penser est carrément ridicule. Si on pense, on doit penser sans maître. En tout cas, moi, je n'ai pas guidé, en fait, ou si j'ai guidé, c'est par mes écrits, mais je n'ai pas donné une méthode qu'il fallait appliquer, en fait, systématiquement, de la manière dont moi je l'ai fait, avec l'intuition que j'ai eue. Et je crois que Kawada Junzo est l'un des meilleurs produits, l'une des figures les plus intéressantes et attachantes aujourd'hui de l'anthropologie japonaise. C'est une personne qui a déjà un certain âge, mais Lévi-Strauss a effectivement fait école au Japon, non pas en produisant des clones, mais en produisant des formes de réflexion qui nourrissent encore le regard que les intellectuels japonais ont non seulement sur leur propre pays, mais aussi sur des pays auxquels ils s'étaient peut-être moins intéressés jusque-là, comme l'Afrique, comme l'Amérique latine. Donc je crois que ça, c'est un apport majeur de son œuvre, y compris du côté japonais.
Il y a un entretien donc, dans ce livre entre les deux hommes. Qu'est-ce qui se dégage de cet entretien? Vous disiez qu'à la rigueur, le japonais trouvait le français trop gentil envers le Japon.
Je pense que justement, il y a peut-être Kawada lui reproche-t-il, non sans raison sur certains points, mais comme quand on a un enthousiasme, on peut toujours avoir cet enthousiasme tempéré par les remarques d'une personne, en l'occurrence japonaise, ça pourrait être dans un autre pays, ou brésilienne, qui est de lui dire peut-être qu'il y a trop d'enthousiasme pour le Japon, peut-être que certains antagonismes ou certaines valeurs qu'on estime perdues en Occident, comme la notion qui panique Lévi-Strauss depuis longtemps, en tout cas qui inquiète son œuvre depuis longtemps, qui est une disparition des formes et de la diversité culturelle, il imagine, non sans raison quand même, il faut bien le dire, que les Japonais ont peut-être mieux su adapter leur culture à la fois aux exigences d'une modernité d'abord imposée, puis ensuite développée un peu d'une manière unique, et en même temps le maintien de certaines traditions. Alors c'est presque un cliché que de le dire aujourd'hui au Japon, mais quand Lévi-Strauss le repère, Kawada lui dit c'est peut-être exagéré, au fond nous aussi on a détruit beaucoup de formes, culturelles, beaucoup de pratiques même qui ont disparu en fait du Japon, donc on n'est pas ce réservoir idéal que vous semblez voir. Mais je crois que derrière la remarque de Kawada se cache aussi l'éloge d'une personne japonaise qui, avec beaucoup de modestie, d'introspection, se rend compte que Claude Lévi-Strauss a saisi en fait des formes de réalité japonaise très intéressantes.
À la question « Quelle fut votre première impression du Japon ?», Lévi-Strauss répond « Les hommes ». Il dit « En abordant le Nouveau Monde, la première chose, la première impression, normalement, c'est la nature. » Il dit « Là, dans ce cas précis, c'est les hommes. Pourquoi ?»
Et c'est intéressant puisque c'est un homme qu'il va distinguer, c'est-à-dire il va parfois distinguer selon la, pas seulement l'intellectuel justement, pas ce dialogue un peu stérile d'intellectuel à intellectuel, mais aussi des gens de la rue, des gens qu'il va rencontrer, demander à rencontrer des artisans, de voir les manières de faire finalement. Et on n'a qu'à penser au titre même des grandes mythologiques cette fois-ci, comme le cru et le cuit, du miel aux cendres, on se dit Lévi-Strauss est un homme qui s'attache aux hommes. C'est l'image contraire d'ailleurs de ce que certaines personnes, à tort, et qui sans doute ne l'ont pas beaucoup fréquenté, croient, en disant c'est une version, il s'attache aux hommes, et finalement c'est la meilleure des manières. Et ce n'est pas très différent, si l'on pense à Triste Tropique, il y a eu beaucoup, ce fameux roman en fait, qui avait été écrit, qui s'appelle La Forêt Vierge, qui était écrit par un romancier portugais qui décrivait l'Amazone, comme si la nature prenait le dessus. Et même dans Triste Tropique, on se rend compte que l'attachement à l'homme, finalement, les épisodes humains, tout en ne mésestimant pas en fait, les spectacles de la nature, beaux ou horribles, en tout cas, est au centre de l'œuvre de Lévi-Strauss. Alors qu'on en fait un peu un penseur désincarné, comme si finalement l'homme pour lui n'avait pas d'importance. Je crois qu'au contraire, il a une pensée qui s'attache à cette vision de l'homme, même si, là encore, je crois que c'est dans la conclusion de L'Homme nu, il dit... Il aime bien penser son œuvre en symétrie par rapport au grand œuvre wagnérien, en tout cas à la tétralogie. Il dit ça serait le crépuscule des hommes, en quelque sorte, non plus des dieux, c'est-à-dire des hommes qui auraient perdu un certain nombre de valeurs et qui oublient qu'un jour eux aussi seront dans le non-être et n'existeront plus. Donc ça, c'est vrai, mais c'est précisément parce qu'il a ce regard attentif aux hommes qu'il est capable de le dire. Alors, dans le cas du Japon, c'est flagrant.
Vous aviez rencontré Lévi-Strauss, vous pourriez nous parler de votre impression à vous?
C'est toujours très difficile à dire, c'est les années où on est facilement marqué, par le simple fait d'avoir rencontré une personne, et sans doute d'avoir rencontré son œuvre un peu avant, ce qui fait qu'on mesure un tout petit peu à la fois la distance qui sépare aussi bien en nombre d'années qu'en matière d'approche, et puis en même temps cette séduction immédiate qui est celle qu'exerce son style, par exemple, quand on le lit, mais qu'exerçait la personne par cette curiosité sans cesse en éveil. Un seul exemple, il y a un texte très court, en fait. Il parle de cette notion qui serait, en fait, qu'il a un peu de monde à l'envers, topsy-turvy, comme si le Japon était un renversement, en fait. Et il parle de Luís Froese, qui a été un jésuite portugais, qui a écrit un petit traité, déjà presque anthropologique, de comparaison, en fait, des mœurs, en quelque sorte, entre les Portugais et finalement les Japonais, à part le chapitre pour la religion, pour des raisons évidentes d'antagonisme religieux. Donc, il est obligé de dire que la religion japonaise est un peu dévoyée, mais pour le reste, aucune des mœurs des Japonais qu'il présente en comparaison n'est absurde. Et Lévi-Strauss fait déjà remarquer ces gens de Léry, par exemple, pour le Brésil. Donc ces gens qui ont déjà une naissance du regard anthropologique. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup, comme le moment dans un texte splendide, qui est sans doute l'un des plus beaux textes qu'on ait écrit sur le zen en français, et sur un peintre, Sengai, qui a été un peintre et un moine éminent, où elle dit « Montaigne est finalement le plus bouddhique des écrivains français ». Qui, en dehors de Lévi-Strauss, aurait pu dire cela, et non pas comme une simple formule, mais avec autant d'intelligence et d'acuité. Donc
et d'ailleurs, c'est... il compare Rousseau à certains auteurs japonais.
Japonais, ou Chateaubriand. Je crois d'ailleurs que c'est dans un entretien télévisé où Claude Lévi-Strauss dit que quand il était jeune, il avait finalement un regard peut-être rousseauiste d'une certaine manière, mais que ses modèles étaient Rousseau et Chateaubriand, et qu'au fond, j'allais dire... À l'époque de son ou de ses printemps, qui est l'époque des tristes tropiques, et même un peu avant, il aurait eu l'œil plutôt rousseauiste, et qu'avec les années, cette espèce de voile léger, en fait, de néant et de disparition, dans le style magistral de Chateaubriand, est-ce qu'il a touché le plus? Donc je crois qu'aussi, c'est une. De Rousseau à Chateaubriand, comme si chacun de ses deux yeux, en fait, avait été éclairé à des moments différents, en fait, par ces deux auteurs, mais par beaucoup d'autres, de la même manière que par Joseph Conrad. Qui explique aussi certaines manières qu'il a de décrire les pays étrangers. Alors que l'œuvre de Conrad, là aussi, explique beaucoup, en fait, dans la genèse du regard que Lévi-Strauss porte sur certaines civilisations.
Quel est le livre que vous préférez de Lévi-Strauss?
C'est difficile à dire, parce que si je vous réponds maintenant, j'aurais tendance à dire, cinq minutes après, en fait, je dirais le contraire. Je pense que, en tout cas, ces deux petits livres qui viennent de sortir sont importants. Pour moi, effectivement, les mythologiques sont l'œuvre de Lévi-Strauss au sens comme une démonstration qu'il poursuit de livre en livre. Mais dans ses derniers livres, Histoire de Lynx, ou encore l'édition Skira, parce que la Pléiade est très belle, mais la Voix des Masques, par exemple, un livre qui, moi, m'avait aussi vraiment fasciné. Et je crois que, comme vous me demandiez tout à l'heure, ce qui m'a touché chez Lévi-Strauss, c'est que je pense qu'il est, au-delà de la philologie du texte pur, ou de la simple expérience de terrain, en disant, finalement, j'ai vécu 10 ans en un pays, où je suis l'expert incontournable de telle ou telle chose. Je crois que c'est un esprit qui est encore un esprit très ouvert, où on sent en fait là aussi quantité d'héritage littéraire, culturel, mais c'est un esprit qui... Son dernier livre s'appelle « Regarder, écouter, lire » et c'est un esprit pour qui la musique a joué un très grand rôle. Et ça, c'est sans doute ce qui me touche le plus, en fait, j'allais dire, dans son œuvre. C'est-à-dire son œuvre a un regard et une attention à la musique. Elle est presque en fait comme une partition, c'est-à-dire comme... Il faudrait savoir interpréter ce regard musical sur l'œuvre. D'ailleurs, il écrit sur la musique japonaise, sur comment, finalement, dans une autre perception, en fait, de l'harmonie, la mélodie, la construction même de la gamme japonaise, permettent d'expliquer certains schèmes culturels. Cette attention à la musique m'a toujours fasciné, car j'ai la faiblesse de penser que du moins deux des écrivains qui m'ont le plus, ou des figures intellectuelles qui m'ont le plus marqué du XXe siècle, sont des gens qui ont eu cette attention accrue à la musique, alors qu'elle... semble accessoire à leur œuvre et qui finalement les joue une place centrale. L'autre nom, pour ne rien cacher, c'est Samuel Beckett, mais qui, pareil, a une attention quasi mélodique à ce qu'il écrit, mais aussi à une conception mélodique du monde. On décrit à un moment, moi j'imagine très bien Lévi-Strauss comme ça, en fait, soit dans une conférence, soit en pensant ses livres ou en écrivant en fait chez lui. Il y a un moment, on dit qu'en fait Beckett assistait aux répétitions, je crois que c'était de fin de partie, avec son bras comme un balancier, comme un métronome, en fait, pour voir en fait si la scansion du texte correspondait à finalement ce qu'il avait écrit. Ça se sent tout à fait, le texte des conférences, on sent qu'il n'y a pas d'effet de manche, pas de gratuité, une sobriété dans l'écriture, mais en même temps une beauté qui laisse au lecteur l'envie de découvrir le reste de l'œuvre, et sans doute au-delà de peut-être regretter, ce qui revient à votre question initiale, que Lévi-Strauss n'ait pas plus écrit sur le Japon.
Mais il a écrit L'autre face de la lune, alors pourquoi le conseiller, ce livre, avant tout?
Je pense pour deux choses, parce que le Japon intéresse. Le Japon est devenu un des pays sur lequel on écrit le plus, faute d'écrire le mieux. Il est intéressant de voir que, justement, le Japon est une sorte d'Eldorado pour l'écriture, puisqu'on peut écrire n'importe quoi, il y aura toujours une étincelle de vrai. Donc Lévi-Strauss, justement, prouve que lui se documente. Il a une culture livresque sur le Japon, et au fond, il va sur le terrain, et c'est une autre expérience. On sent qu'il y a un échange, on sent qu'il s'enrichit de cela. Comme si, finalement, en fait, il entrevoyait, en fait, d'autres possibilités aussi de compléter, de voir son œuvre autrement. Et je crois que c'est très intéressant. Par exemple, l'image qu'il a des peintres japonais, il y a bien sûr les imagiers qui ont fait les estampes, mais il y a aussi d'autres artistes, des artistes par exemple qui ont été dans le domaine de la caricature, du grotesque, en fait d'une certaine forme d'humour qu'ils décèlent aussi au Japon, ce qu'on oublie souvent de mentionner. Et puis ce comparatisme, en fait, qui je crois est au cœur de la civilisation japonaise, dont il donne d'ailleurs une parfaite définition, en disant qu'elle est une sorte d'alliage justement de différentes tendances, de... comme si non pas le Japon était une identité isolée, mais avait été un creuset où se sont mélangés en fait plusieurs aspects des civilisations. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu nous parler de ce livre.
C'est moi qui vous remercie.
Claude Lévi-Strauss. On se quitte sur la citation du début par Lévi-Strauss que je vous lis. Par des voies bien modestes, sans doute, fidèles aux impressionnistes, mon père, qui était artiste peintre, avait dans sa jeunesse empli un gros carton d'estampes japonaises et il m'en donna une quand j'avais 5 ou 6 ans. Je la revois encore, une planche de Hiroshige, très fatiguée et sans marge, qui représentait des promeneuses sous des grands pins devant la mer. Bouleversé par la première émotion esthétique que j'eusse ressentie, j'en tapissais le fond d'une boîte qu'on m'aida à accrocher au-dessus de mon lit. L'estampe tenait lieu de panorama. Aussi puis-je dire que toute mon enfance et une partie de mon adolescence se déroulèrent autant, sinon plus, au Japon qu'en France, par le cœur et par la pensée. Et pourtant, je ne suis jamais allée au Japon. Non que les occasions aient manqué, mais sans doute, dans une large mesure, par crainte de confronter à l'immense réalité ce qui reste encore pour moi, le vert paradis des amours enfantines. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.